Salut, ici Cathy Alexandra et vous écoutez le balado Rassemblons-nous. Donc aujourd'hui, pour un nouvel épisode, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Gabriella Rousseau, qui est coordonnatrice du secteur accueil au CANA. Donc salut, comment ça va aujourd'hui?
Salut, ça va bien toi?
Ça va très bien, merci. Donc Gabriella, ben, tout d'abord, parle-nous un peu de toi, de ton parcours, puis comment tu es arrivée au CANA.
Alors voilà, moi j'ai 36 ans, je suis au CANA depuis 2016, c'était ma deuxième expérience de travail dans la vie, de carrière, et il n'y a rien qui me prédisposait vraiment à travailler en immigration à l'origine. Moi j'ai un background scolaire, académique, axé sur les langues et le développement durable. Alors moi à l'origine je m'en allais travailler à l'étranger, sauver le monde par des projets en environnement, tout ça, okay. Et j'ai fait un stage à l'étranger et c'est vraiment le hasard qui m'a amené à travailler avec des nouveaux arrivants dans un organisme communautaire au Québec, à Joliette, le Crédil, qui est un organisme qui héberge un peu les deux, qui fait des stages à l'international, mais qui accueille des personnes réfugiées.
Okay.
Alors moi, en ayant un poste d'intervenante dans cet organisme, j'ai vraiment, j'ai comme transité vers l'immigration, accueillir les gens qui arrivent ici. Dans cet organisme, c'est des réfugiés pris en charge par l'État, donc des gens qui sont vraiment pris en charge, là, des gens qui viennent des camps de réfugiés, qui sont démunis, qui ont besoin de tout, l'accompagnement, tout, et qui s'intègrent dans des régions au Québec. Alors, c'est comme ça que j'ai connu vraiment l'accompagnement, les notions d'accueil, d'intégration. Je l'ai vécu, moi, en allant faire un stage à l'étranger, quand moi, j'essayais de m'intégrer dans un village en banlieue de Dakar, au Sénégal. Mais c'est de le voir ici, au Québec, avec des gens vraiment qui changent de vie, là. Moi, c'était un stage, un voyage, mais tu sais, ouais. Des gens qui changent de vie pour des raisons de sécurité, des raisons de sûreté, c'est vraiment une illumination, en fait. Waouh! C'est le fun d'aller faire la différence dans le monde, mais il y a tellement de choses à changer chez nous, tu sais. Mmh. Alors, ça a été une révélation pour moi et j'ai continué à cheminer en immigration sans aller faire de la formation telle quelle. Je l'exclus pas un jour peut-être là, d'aller faire soit un programme de formation dans le domaine, mais avec l'expérience que je bâtis petit à petit, puis avec la grande expertise avec des collègues avec qui je travaille, au CANA, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, qui m'intéresse. C'est-à-dire le grand immigration avec un grand I, là, c'est vaste, c'est complexe, c'est multiple, les profils des gens sont on peut pas quantifier ça, documenter ça, c'est vraiment fascinant, puis intéressant, valorisant et stimulant. Je suis, au CANA depuis 2016. J'ai rentré comme intervenante et je faisais le travail de Clotilde, ma collègue qu'on a rencontrée tantôt, qui était intervenante dans les écoles. Puis ensuite, je suis surtout au bureau. Donc, c'est de l'intervention vraiment dans les gens qui viennent avec rendez-vous au CANA, qui ont besoin A, B, C, D. On les accompagne, on les oriente, on les réfère. On fait pas de prise en charge chez nous. C'est vraiment les gens qui nous formulent leurs besoins. On les accompagne dans la mesure de ce qu'on peut les accompagner, non seulement en démarche d'immigration, mais d'installation, conseils, dans domaines très, 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 très divers. Et bien, nouvellement, depuis un an, moi, je coordonne le secteur. Alors, en fait, je fais un peu d'intervention par-ci, par-là, mais c'est vraiment plus du soutien à mes collègues intervenants qui, eux, sont sur le terrain. En première ligne, orientation des services. Des fois, on peut pas répondre à tout le monde. Des fois, on peut augmenter notre offre de services, être au courant des besoins du terrain, de ce qui se passe dans les ententes, les partenariats. Il faut toujours être un peu à l'affût de ce qui se passe, de ce qui se trame, les annonces. Tu sais, nouvellement, les demandeurs d'asile ont eu gain de cause et on va avoir accès aux places dans la garderie subventionnée.
Okay.
Ça, c'est live maintenant, là, genre la décision a tombé cette semaine.
Okay.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les gens nous arrivent avec des questions. Mm-hmm. Si moi, on n'est pas au courant de ces informations-là et si on ne va pas à l'avant pour chercher, OK, qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens, qu'est-ce qu'on peut leur dire, vers où on les oriente. Alors, les gens, ils viennent à nos portes là, avec ces questions-là. Mm-hmm. Alors, c'est ça, c'est d'être agile dans les grands mouvements, encore une fois, de ce qu'est l'immigration au Québec et au Canada aussi. Au Québec, il y a la particularité des deux palais de gouvernement qui, des fois, ne sont pas tout le temps sur la même longueur mm-hmm. d'onde ou des informations qui arrivent d'un, de l'autre. Et selon les catégories d'immigration, ce n'est pas les mêmes implications. De là, la complexité de l'immigration. Il y a des formations qui existent pour ça. Alors, nous, on fait ce qu'on peut avec l'information qu'on a. Et c'est ça. Et c'est d'être au fait le plus possible de ce qui se trame, de ce qui se passe. On n'a pas de service juridique non plus. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre un peu. Les gens ont souvent besoin de conseils plus. Puis c'est là qu'on est limité. Le secteur communautaire est limité.
Est-ce que vous pouvez les référer?
Mais c'est un peu les efforts qu'on essaie de faire. Les services juridiques étant débordés à droite et à gauche, mais on essaie de les orienter effectivement sur les différentes avenues, les sensibiliser aussi sur les risques des services légaux ou illégaux. Il y a en ce moment le barreau de Montréal qui est en campagne de sensibilisation sur les faux avocats. Faux-avocat.com, c'est ça, je pense, le nom du domaine. Puis
Et surtout dans ce secteur-là, ça doit
y avoir l'immigration, mais c'est ça, l'exploitation de la naïveté des gens, les avocats frauduleux qui prélèvent des frais incroyables et qui répondent plus, ou qui font des jobs bâclés, ou qui donnent la mauvaise information, la fausse information. Il y a beaucoup de cas de figure. On en entend parler des fois un peu, des gens qui nous arrivent des aberrations, et c'est de là l'idée de faire de la sensibilisation au niveau du barreau, puis nous, on diffuse ça, on essaie d'inculquer aux gens de faire attention, de où se renseigner pour... S'il y a une recherche facile à faire sur Internet, si tu mets le nom de l'avocat en question, il va te le dire si c'est un bon ou s'il est enregistré ou pas.
Mais est-ce que vous êtes quand même renseigné sur, mettons, cette personne-là, on sait que c'est frauduleux ou telle affaire?
Non,
est-ce que
vous avez... Il y avait une époque où est-ce qu'on tenait une genre de petite blacklist, mais maintenant, on voit tellement de gens, il y a tellement de réseaux, d'avocats, il y a l'ordre, des associations, c'est complexe, alors non, on ne se tient pas à jour de ça.
Mais est-ce que vous avez le droit de conseiller, aller voir telle personne ou tel organisme?
Mais nous, on ne le fait pas, okay. Justement, parce que les avocats, ultimement, c'est des services privés. Okay. Alors, on les réfère plus, mettons, vers la clinique juridique de l'Université de Montréal, pro bono, ou vers l'aide juridique de façon générale, mais pas vers des cabinets privés, pas vers des avocats privés, parce que peut-être que place le fond, mais nous, consciemment, on ne le fait pas parce que ça serait, c'est de préférer des services privés versus un autre, puis là...
Il pourrait comme conflit d'intérêts.
Quelque chose comme ça. Alors, c'est ça. Je ne pourrais pas le nommer mieux que ça, mais c'est d'office, on ne réfère pas vers des avocats en particulier, plus vers des instances, des organisations qui ont réputation de donner des bons services, là, mais pas des avocats précis.
OK, parfait. Puis, en fait, toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir le CANA? Puis, je voulais te demander aussi, comme j'ai demandé à tout le monde, qu'est-ce que le CANA signifie pour toi dans ta vie?
Ben, comment je suis arrivée au CANA? Ben, je cherchais de la job, tout simplement. C'est quand j'ai quitté l'autre à Joliette, il y avait un changement de vie, copain, appartement, blablabla. Alors, je cherchais un job sur l'île de Montréal. Puis, c'est tout. j'ai postulé, CANA m'a répondu, j'ai été embauchée, puis tout ça. Fait que ça a été, je cherchais pas le CANA spécifiquement, mais je cherchais immigration et scolaire. Déjà. Okay. Et c'est ça. Alors, je suis au CANA depuis décembre 2016. Et qu'est-ce que le CANA représente pour moi? C'est des opportunités d'apprendre, de connaître, d'être en contact avec un milieu c'est ça, je l'ai dit tantôt, l'immigration, je cherche à en connaître plus. Alors, pour moi, le CANA offre ça, de connaître plus comment fonctionne le monde, comment fonctionne le système des yeux, en accompagnant les gens, je fais un peu ça, tu sais. Parce qu'on touche à tout. L'immigration, c'est transversal. L'immigration, c'est pas un domaine. L'immigration touche, les immigrants touchent la santé, touchent l'école, touchent l'emploi. C'est des gens qui ont besoin de tout dans la société. Alors, c'est une façon de voir tout, de comprendre tout. Et c'est ça qui est exigeant un peu dans notre travail, c'est qu'on doit être un peu expert en tout.
Mais ça doit être vraiment enrichissant de la façon dont tu t'en parles, en tout cas.
Tout à fait, exactement. Alors, ce que ça représente pour moi, ben c'est ça. C'est un travail, j'aime beaucoup ce que je fais, mais c'est surtout aussi des opportunités. Et le Canin est un employeur très flexible, très permissif, c'est pas le bon mot, mais formation toujours possible. Qui bénéficie d'une belle crédibilité aussi sur Montréal, dans le réseau des organismes. Je peux prétendre ça un petit peu quand même, mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment plus qu'un employeur, c'est des opportunités, puis une équipe de travail super avec une direction tout à fait là pour la mission de l'organisme. C'est ça. Qui est important, qui est dans le communautaire, c'est important de jamais perdre la mission de l'organisme, de ne pas vouloir croire pour croire, tu sais.
Ouais.
On croit, mais dans les bonnes façons, puis avec des programmes pertinents pour notre clientèle, ben, pour nos participants et tout ça. Fait que le Canada, pour moi, c'est une instance qui est totalement pertinente. Et l'immigration, ça ne va nulle part. Là. Les gens, ils ont besoin ça ne peut que grandir et Montréal, il y a besoin d'organismes comme le nôtre.
Parfait. Le Canada est un excellent exemple.
Puis en fait, justement, je voulais savoir, toi, quel est ton rapport avec l'immigration? C'est une grande question, tu peux répondre comme tu veux. Mais...
Bon, déjà, mon prénom, Gabriella, ma mère est mexicaine. Mais je suis née au Québec. J'ai vécu toute ma vie au Québec. Je n'ai jamais vraiment vécu ailleurs. L'immigration, je l'ai nommée un peu tantôt, est venue par hasard dans mon cheminement. J'allais dans autre chose et là, ça m'habite de par les expériences que j'ai vécues, de par les gens que je côtoie dans mon travail.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours passionnée?
Mais non.
Non, même pas.
Non, c'est arrivé, comme je dis, c'est arrivé par... Mon Dieu, j'étais au Crédil en 2013. Donc, l'université finie, là, l'école finie et tout. Et c'est ça, par hasard que c'est là que j'ai rencontré les réfugiés qui faisaient la file d'attente pour le bureau à côté de moi. Moi, je travaillais sur autre chose. Puis je les voyais assis dans le corridor, qui attendaient pour venir faire des papiers, des choses comme ça. Ils parlaient pas français, les gens. Puis il y avait des papiers, puis ils attendaient. Je suis comme « Alors, c'est vraiment venu comme une curiosité. Puis, ben, j'ai juste bénéficié d'un départ à l'interne. Alors, j'ai pris la place de quelqu'un parce que c'était une opportunité de travail, tout simplement, et que j'aimais l'organisme et tout ça. Alors, j'ai baigné dans quelque chose de nouveau du jour au lendemain. Et j'ai bâti une expertise comme ça, une expérience comme ça. Ça me vient peut-être intuitivement, mais parce que je parle trois langues, déjà l'anglais et l'espagnol. Je sais pas, connaissance géopolitique de comment un peu la conscience humaine de ces peut-être les sciences sociales, j'ai ça en moi quelque part aussi. On pourrait dire que je viens d'un background en sciences sociales plus que sciences nature. Ça met déjà peut-être un peu la table. Mais je sais pas, ça m'est venu humainement, l'intérêt, puis tu commences, tu creuses, puis c'est ça. C'est vraiment devenu comme un intérêt de façon générale.
Puis dans le personnel, est-ce que avec ta mère, elle avait des discussions avec toi par rapport à l'immigration ou c'était non, c'est ça?
Ça m'est pas venu, c'est ça. Je le mentionne très rarement parce que ça a vraiment rien à voir à ce que je fais aujourd'hui. T'sais. C'est les langues, peut-être plus l'intérêt vers les langues. L'espagnol serait plus une langue avant l'anglais dans la pratique puis dans la fluidité, mettons, de la langue. Mais d'emblée, c'est pas lié. Non, ma mère, c'est une personne qui s'est francisée très rapidement, puis nous, on vient de la région de Québec, alors c'est pas une femme qui a baigné dans un réseau de femmes issues du Mexique non plus, qui a pas de... c'est ça, on est... alors, c'est pas... Non, c'est pas tant de mon... C'est pas de sang ni de mon enfance, en fait. Mm-hmm. C'est vraiment venu comme ça.
Mais comment, en fait, je pose cette question-là à tout le monde parce que, je le redis, pour moi, je crois à la diversité dans la diversité. Puis je trouve ça important de poser cette question-là pour voir à quel point, souvent, dans ce qu'on entend, en tout cas dans la société ou dans certains discours, comme si l'immigration, elle a une seule couleur ou une seule histoire. Des fois aussi, on pense à quelque chose de triste ou de souffrant, tandis que pour d'autres personnes, c'est comme... C'est rien du tout. Puis comme même là, je trouve ça fou que c'est même pas dans ton expérience, c'est même pas en lien avec pourquoi t'es allée dans ce...
ça aurait pu être une raison évidente, ma mère, exactement. Et ce l'est pas.
Mais c'est ça que je trouve important de poser la question pour pas assumer des choses, tu sais, puis de donner cette individualité à chacun que je trouve que des fois, on perd en tant que soit immigrant ou enfant d'immigrant, ou justement dans toute cette question de l'immigration, de perdre notre individualité là-dedans. Donc, d'où la question.
Tout à fait.
Mais c'est très intéressant. Pour ce qui est de ton poste à l'accueil, dans le fond, explique-nous un peu comme... Moi, je connais pas trop... tu sais, moi, j'ai été approchée par le CANA, mais je connaissais même pas l'organisme à la base. Mm-hmm. Donc, pour les gens qui connaissent pas, comme moi, donc quelqu'un qui travaille à l'accueil, dans le concret des choses, comment ça fonctionne, disons, une journée typique pour toi, c'est quoi? Ou est-ce que tu as une journée typique où tous les jours, c'est...
Ben, moi, comme Cordeau, c'est sûr que mes journées sont pas typiques. Mais le secteur, dans l'ensemble, nous, on est là pour les gens qui ont des besoins. Donc, on n'est pas des travailleurs de terrain. On recrute pas les gens. Nous, on est là en soutien pour les gens qui ont besoin d'aide pour des démarches, des questions, de l'orientation. Alors, on fonctionne sur rendez-vous chez nous, d'emblée.
Les gens qui vont directement au CANA.
Tout à fait. Je vous dirais que le CANA, ça fait 40 ans que ça existe. Alors, le bouche-oreille, ça se passe. À l'époque, des cartes d'affaires, là, nos cartes se passaient. Il suffit que je passe la carte de quelqu'un puis elle allait me revenir dans un mois parce qu'un ami l'a amené. C'est ça. Alors, le bouche-oreille dans les communautés immigrantes, ben, c'est quelque chose de fort, c'est ce qu'on remarque. Et au CANA, on dirait historiquement, de parce que le staff parle beaucoup espagnol, alors on dessert beaucoup une clientèle latino-américaine.
OK.
Parce que, bon, on a des services espagnols à mur à mur. Alors, déjà, là, ça atteint un peu peut-être le type de clientèle qu'on dessert. Malheureusement, on n'a pas d'intervenante arabophone. Si on avait une, ce serait probablement... on verrait une différence dans le profil qu'on reçoit. Dans le contexte actuel, c'est pas ça. On dessert beaucoup aussi Montréal-Nord. Parce que, bon, c'est des quartiers où les gens à faible revenu peuvent habiter. Puis l'axe des transports est assez direct. Ça arrive directement au métro Henri Bourassa. Alors, on dessert beaucoup ce secteur-là aussi. Mais d'emblée, on accepte tout le monde de tout Montréal. Les gens nous appellent de partout et même de l'extérieur de Montréal. Alors, on n'a pas de cette limitation-là concrète au niveau du territoire, mais somme toute, les gens arrivent de là. Et les gens nous appellent. Ils nous posent la question. Faites-vous ça? J'ai besoin de faire ça. Est-ce qu'on peut? Blablabla. Et là, on donne ou pas des rendez-vous.
Alors, dans le fond, c'est très ouvert. La personne peut arriver avec n'importe quelle question, n'importe. Puis vous allez comme.
Ben, il y a un triage, un peu comme dans n'importe quel centrale ou organisme, il y a un triage. Donc, la réception, l'agente à la réception prend le message. Des fois qu'on peut donner l'information au premier appel, on donne. Mais sinon, cette personne, elle est rappelée par l'agente d'accueil qui peut donner soit un référencement plus précis, soit vers d'autres organismes en immigration. Des fois, on fait plein de choses, mais on est quand même une petite boîte par rapport à des organismes en immigration beaucoup plus gros sur Montréal. Je ne sais pas si c'est peut-être de nom t'en connais, mais dans les arrondissements, il y en a des gros. Alors, sinon, on réfère. Mais qu'on peut faire, donc des démarches concrètes, bon, d'immigration, on l'a nommé, des démarches d'installation, il y en a plusieurs, là, où est-ce qu'on peut référer, comment on peut accompagner. Ça mène à des rendez-vous. Alors, ces gens-là ont des rendez-vous et on les accueille soit en présentiel ou des rendez-vous téléphoniques et même des fois par Teams aussi. Avec la post-pandémie, on a développé vraiment une façon de travailler en hybride. Ouais. Chose que des organismes, des fois, ils ont choisi de ne pas faire. Mais nous, c'est quand même demandé. Ça répond à des besoins là, de faire des choses par téléphone, exclusivement par courriel et par téléphone. Des fois, ça sauve du temps et l'énergie aux gens, ça rend service. J'ai des collègues qui restent à la maison. Alors, ça, c'est vraiment une façon qu'on a de travailler. Puis on fait les suivis. Alors, on fait des démarches, mais après, on reste ouvert pour les gens qui reçoivent des suivis, des demandes, des besoins. Alors, ça prend toutes sortes de formes, en fait. Les appels qui rentrent à la réception, ça prend toutes sortes de formes. Et okay. Moi, j'accueille, j'accompagne la réception. Ayant fait de l'intervention par le passé, des fois, ça me donne un peu un filon de plus pour pouvoir orienter les gens, leur donner une réponse rapido par rapport à « Allô, est-ce que je suis une admissible à déposer la citoyenneté? » Bon, alors, je suis capable de faire les 3-4 questions pertinentes pour dire « Oui, ça, c'est un rendez-vous ou ça, non. »
OK.
C'est vraiment des exemples.
Mais quand on parle du secteur accueil, est-ce que c'est vraiment, de ce que je comprends, bon, les familles vont venir avec un certain besoin, une certaine question, et vous, est-ce que vous les accompagnez ou vous les, dans le fond, le accueil, c'est les diriger vers le bon secteur du CANA? Dans un autre
ben, je comprends le mot accueil peut-être et
ou est-ce que c'est comme regarder on a une boîte bienvenue c'est pour vous accueillir au Québec
ouais, non
boîte
c'est
de départ,
accueil pourrait être remplacé par service d'immigration et d'installation.
Okay.
Alors, à la différence des autres secteurs francisation, à la différence du secteur famille, donc le tilde est tissu, et à la différence du secteur mobilisation. Fait que c'est vraiment nos 4 secteurs principaux, secteurs d'activité au CANA, et ils ont nommé notre secteur accueil pour... Après, il faudrait peut-être questionner la direction de l'époque. Mais c'est nous, ce qui nous distingue, c'est vraiment les services individuels. Donc, nos services mènent à souvent des rendez-vous en individuel dans les bureaux ou de la consultation individuelle, alors que les autres services du CANA, ben c'est d'autres types de services. Alors, c'est vraiment juste un nom pour distinguer un peu le type de service dans l'organisme. Fait que c'est ça.
Parfait. Puis, j'aurais une question assez peut-être complexe, tu me diras si tu peux y répondre, mais c'est quelque chose que même moi, je suis pas nécessairement experte, puis que je trouve que c'est important encore là, avec le même souci de diversité dans la diversité et dans l'immigration. Est-ce que tu serais capable, disons, de nous donner un petit cours 101, un petit cours 101 des différents types d'immigrants? C'est comme parce que demandeur d'asile, tu sais, quand on entend les demandeurs d'asile, un réfugié politique, tu sais, il y a puis là, je te demande pas de toutes les faire.
Hein,
ouais, et vraiment 101, parce que on dirait que, encore là, de la même façon que quand on parle d'identité ou d'histoire d'immigration, on dirait qu'on met tout dans le même bateau.
Oui,
mais ça aussi, puis le statut est très différent. T'sais, moi-même, mes parents me le disaient, c'est comme, nous, c'est très différent d'arriver ici comme réfugié que comme immigrant, disons. Donc, je pense que ce serait pertinent, puis en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant aussi de se connaître les différences entre les différents statuts.
Tu me donnes combien de temps pour ce cours-là?
On a le temps.
Ouais, c'est une excellente question, et autant que pour nous, c'est une information hyper banale, puis oh mon Dieu, facile, mais on le réalise à quel point pour des milieux, c'est pas acquis. Mettons, on développe un module, on développe la formation au CANA justement pour démystifier ces choses-là, justement. Puis c'est qui nous demande ces formations-là? Ben ça pourrait être tel département du ministère de la Santé.
OK.
Puis parce que c'est pertinent, parce que les gens arrivent avec toutes sortes de statuts d'immigration à leur service, et comme tu dis, c'est facile de catégoriser tout le monde. « Ah, immigrant, donne-moi ton papier d'immigration. »
Oui, c'est ça.
Mais ça marche pas comme ça pour tout le monde. Alors, c'est extrêmement pertinent et important, mais très complexe.
Oui, c'est pour ça.
Et en fait, ce que j'ai envie de dire spontanément comme ça, c'est que le statut d'immigration d'une personne, c'est pas quelque chose qui va le définir toute sa vie.
Oui.
C'est quelque chose qui bouge dans le temps, qui change, qui évolue. Et les gens, c'est un parcours. C'est pas quelque chose de fixe et c'est pas quelque chose qui va le définir. Et malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui affecte beaucoup les personnes en demande d'asile, qu'on parle beaucoup, qui sont médiatisées, tout ça, puis que c'est quelque chose qui les suit beaucoup, des gens qui ont des parcours d'immigration longs, complexes, puis cette étiquette-là, ils vont-tu s'en débarrasser un jour? Je ne sais pas, mais ça illustre encore une fois que c'est important de comprendre les tenants et aboutissants, parce qu'ultimement, les catégories d'immigration, c'est juste l'étiquette que la personne prend pour rentrer au Canada.
Mm-hmm.
Et les services auxquels il a accès en ce moment au Canada selon son statut. Mm-hmm. Mais
puis est-ce que ça c'est décidé ou ça dépend encore là de quel statut on parle? Est-ce que ça c'est décidé avant d'arriver ou c'est quand il arrive? Tu sais comment ça se passe cette espèce d'étiquette là justement quand est-ce qu'elle est donnée? Là je te pose encore une autre question.
Oui mais pour c'est parce que une va avec l'autre, exact. En fait si on Puis il n'y a pas de suite logique, il n'y a pas de parcours unique. C'est vraiment, on peut commencer par, bon, les personnes demandeuses d'asile dont on parlait, c'est, bon, les personnes qui demandent l'asile, ils ne planifient pas de le faire. Mm-hmm. Du moins, c'est pas le but de cette voie d'immigration-là. C'est des gens qui cherchent l'asile, ça le dit, c'est des gens qui cherchent le refuge. Et ces gens-là, ils deviennent en rentrant au Canada. C'est pas quelque chose que tu planifies depuis le pays, que tu fais des démarches pour, blablabla.
Ils quittent leur pays.
Ils quittent, ces gens-là traversent la frontière, veulent rentrer au Canada et...
ils demandent asile
au poste frontalier, ils peuvent demander l'asile politique. Comme ça, okay. Je déclare que je demande l'asile et tout ça. Et là, s'en suivent les démarches et c'est quelque chose de complexe. Et ça, c'est mettre une croix sur son pays d'origine. Tu sais, c'est pas une mince affaire.
Oui, ça, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes ça.
C'est pas une mince chose. Demande l'asile puis tu vas voir, ça va se régler. Non. Du moins, il y a peut-être beaucoup... Et encore une fois, là, les avocats frauduleux ou les façons qui utilisent cette voie de contournement, on entend beaucoup de choses qui... Il y a des gens qui se mettent dans des situations complexes et qui ont la mauvaise information. La clé, la bonne information pour les gens, ça, c'est quelque chose les organismes comme nous se doivent de porter, c'est d'informer les gens le plus possible correctement. Mm-hmm. Alors, notamment ça, par rapport à demander l'asile, pourquoi, comment, c'est quoi. On n'a pas cette connaissance juridique-là, mais il y a beaucoup de mésinformations par rapport à ça. Mais bref, la demande d'asile, c'est ça.
Quand tu dis mettre une croix sur le pays, ça, c'est indéfiniment, c'est...
Du moins jusqu'à temps que tu obtiennes la citoyenneté, du moins. Alors, c'est long.
Ouais.
C'est long. Et ça, c'est parce que là-bas, tu peux pas...
Et ça, c'est
pas...
si tu l'as.
Et ça, c'est... Mais l'asile, tu l'as. Tu obtiendras ton papier de demandeur d'asile, ton papier brun, parce que tu l'as.
Ah non, mais je parle de la citoyenneté.
Ah oui, ça, c'est si tu l'as. Oui, tout à fait. Ouais. Et encore une fois, je vais le dire, je suis pas experte mur à mur, puis tout. Et les lois d'immigration changent de façon avec
oui.
le temps. Fait que dans
mais déjà,
ans,
ça nous donne une bonne base. T'sais, c'est comme ça, je dis, comme juste ouais. 101 pour pouvoir les différencier. Ouais. Parce que tu le disais, puis moi aussi, comme en venant ici, j'entendais, bon, les demandeurs d'asile, là, on les blâme de tout. Bon, mais après, c'est que moi, je sais pertinemment que des gens qui entendent ça se disent, ah, les immigrants.
Oui,
tu sais, comme si on est tous des demandeurs d'asile.
Non.
Mais voilà, donc là, demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui fuit son pays pour une raison X qui doit être majeure.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est décidé par une commission. C'est quelque chose, c'est une démarche juridique. C'est mm-hmm. déterminé par quelqu'un si oui ou non on t'octroie le statut de personne réfugiée. Alors là, quand on parle de réfugiés, mm-hmm. c'est là qu'aussi il y a beaucoup de mauvaises interprétations du mot réfugié parce qu'une personne d'asile qui reçoit l'acceptation devient réfugié accepté
okay.
ou personne protégée.
OK.
Mais les réfugiés aussi, c'est les gens qui sont réfugiés outre-mer. Comme je parlais tantôt, l'organisme où est-ce que j'étais, qui, eux, c'est des gens qui sont sélectionnés par des instances internationales, qui sont déclarés comme réfugiés extérieurs et qui sont rapatriés au Canada à titre de résidents permanents rendus ici.
OK.
OK. C'est peut-être ce qu'on pourrait dire comme réfugiés politiques aussi, des réfugiés pris en charge par l'État.
Oui.
Mais leur statut, c'est pas ça. Leur statut au Canada, ils sont résidents permanents.
OK.
On appelle ça réfugiés parce que c'est ce qui les a amenés, c'est le chemin qui les a amenés au Canada, mais ils obtiennent une carte de résident permanent en arrivant au Canada.
En étant réfugiés politiques.
À cause de l'obtention de leur statut de réfugié à l'étranger, dans le cheminement, ils deviennent résidents permanents au Canada.
Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de ça serait quoi un parcours d'un réfugié politique?
Ben les gens issus des conflits de guerre, par exemple, et les mettons les Syriens.
Mm-hmm.
La suite de la guerre en Syrie, je me souviens au Crédil, quand j'étais en 2013 à Joliette, les premiers Syriens arrivaient au Québec,
mm-hmm.
issus de la guerre en Syrie. Donc, c'est ça qui est arrivé. C'est des gens qui ont fait tout qui ont été identifiés comme réfugiés en Syrie par je veux pas me tromper. Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, donc des instances internationales qui octroient le statut de réfugié là-bas. Mais le Canada, faisant partie des organismes qui ont un mandat d'accueillir des réfugiés à travers le monde, le Canada n'est pas mm-hmm. le seul. Il y en a une liste de pays qui ont ce mandat-là. Alors, on a pris un pourcentage des gens, des réfugiés syriens qui étaient dans les camps de réfugiés, qui ont reçu le statut, mais qu'en arrivant, ils arrivent résidents permanents. Alors, c'est des réfugiés pris en charge par l'État. Et comme je dis, ici, leur statut d'immigration n'est plus réfugié. Concrètement, sur papier, ils ont une confirmation de résidence permanente, ils sont résidents permanents, et ils sont comme les citoyens, à part qu'ils n'ont pas le droit de voter, d'avoir un passeport canadien. C'est les deux exclusions typiques à ce qui distingue un résident permanent d'un citoyen.
C'est ce que j'allais te demander, oui, c'est parfait.
Mais somme toute, ils ont accès à la même scolarité que nous, aux mêmes services de santé que nous, aux mêmes opportunités sur papier que nous. Sur papier, parce que bien sûr que ces gens-là ont des défis au niveau de l'employabilité, au niveau linguistique et au niveau de l'intégration sociale. Je t'entendais parler d'intégration tantôt, ça c'est tout un autre ouais. sujet. Ouais. Mais les réfugiés pris en charge par l'État, des Colombiens, beaucoup. Je me souviens quand j'étais au Crédit, j'ai accueilli beaucoup de Colombiens qui arrivent, eux, ils sont pas dans des camps de réfugiés, mais par contre, ils obtiennent un statut de réfugié là-bas, en Colombie, fuite des FARC, de tout ce qui est la situation politique là-bas, on peut s'imaginer. Et ils arrivent ici, statut de résident permanent, et ils font une nouvelle vie.
Okay.
Et ces gens-là retourneront probablement jamais en Colombie. Ça, c'est des réfugiés pris en charge par l'État, des réfugiés politiques. Souvent, ce sont là qu'on appelle réfugiés politiques.
Puis, des réfugiés économiques? Est-ce que c'est...
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas? C'est-tu
des immigrants de la catégorie économique.
Okay.
Donc ça, c'est les immigrants économiques. Encore une fois, puis là, en plus, je suis enregistrée. Il y a probablement beaucoup de... Le terme est probablement pas bon, mais la catégorie de l'immigration économique, là, elle est quand même complexe.
Okay.
Ce qu'on voit, c'est là que les travailleurs temporaires arrivent. Donc, tous les gens qui arrivent avec des permis de travail temporaires,
mm-hmm.
ces gens-là, ils arrivent avec déjà un contrat de travail. Ils sont beaucoup... Le recrutement à l'étranger, maintenant, c'est... chez nous, on les voit moins. Malheureusement, on n'a pas l'expertise beaucoup sur les travailleurs temporaires, mais le recrutement à l'étranger, c'est partout, dans tous les secteurs. Il manque de main-d'œuvre au Québec où les jeunes ne veulent pas travailler, name it la raison, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recrutement à l'étranger dans certains domaines, dans la santé, dans les technologies de l'information, dans... je sais pas, je pourrais pas nommer d'autres domaines, mais beaucoup, beaucoup de recrutements à l'étranger. Alors, ces gens-là arrivent avec des contrats de travail, permis de travail fermés, l'employeur maintient ou pas. Les agricoles, mm-hmm. c'est une autre catégorie, les travailleurs agricoles, dont on parle quand même beaucoup. Tout ça, c'est l'immigration économique. Parce que ces gens arrivent pour travailler.
Immigration économique. Donc, et un immigrant, ben c'est ça, de l'immigration.
C'est pas que les seuls, mais c'en est un. Parce qu'il y a les immigrants qui, eux, font, eux, leur démarche depuis leur pays. Ça, c'est peut-être, j'aurais peut-être pu commencer avec cette catégorie, les travailleurs qualifiés.
Okay.
Donc ça, c'est les gens qui déposent leur dossier de résidence permanente depuis le pays, qui commencent en googlant IRCC Canada et qui appliquent, qui font les démarches, qui ça leur prend 3 ans probablement depuis l'étranger de faire toutes leurs démarches, leurs examens médicaux, blablabla, pour obtenir le statut de résident permanent ici en arrivant. Mais ça, c'est l'immigration qui est calculée, qui est planifiée, qui est organisée. Et ça, rappelle-moi, c'est les travailleurs qualifiés. Ça rentre dans la catégorie de l'immigration économique. Mais dans la sous-catégorie travailleurs qualifiés.
Puis, pour travailleurs qualifiés, est-ce que nécessairement ça veut dire qu'ils peuvent immigrer parce qu'ils ont des compétences qu'on a besoin au Canada?
Tout à fait. Selon une liste, selon une grille, puis il y a tout un système d'évaluation au niveau du gouvernement du Québec.
Du Québec,
donc,
oui.
c'est oui. au niveau du gouvernement du Québec qui évalue cette éligibilité en fonction, effectivement, des compétences de l'applicant, du conjoint. Alors, il y a une grosse part de subjectivité là-dedans. Il y a une grosse part de calcul. C'est pas... c'est ça, on est dans l'immigration économique. Alors ça, c'est aussi un grand bassin de gens, beaucoup de Maghrébins qui arrivent par ce chemin-là, beaucoup de... Oh mon Dieu, je pourrais pas généraliser avec d'autres catégories, d'autres bassins culturels, mais c'est un chemin très typique, connu, puis ces gens-là arrivent, c'est ça, avec la résidence permanente, et là, comme on a dit tantôt, ils ont carte blanche à part, c'est ça, pouvoir voter et avoir un passeport canadien. C'est sinon, ils ont accès à tout au Québec, les mêmes possibilités que toi et moi.
Mm-hmm.
Les mêmes accessibilités, les mêmes...
Puis quelqu'un, disons, d'un pays X qui ne vit pas nécessairement de guerre ou de situation politique, qui met sa vie en danger, qui n'a pas un travail d'une profession qui est nécessairement recherchée, mais qui dit « Hey, dans mon pays, je vois pas d'avenir, je me reconnais pas dans les valeurs de la société que mon pays est... » c'est ça, les valeurs de mon pays et qui ne semblent pas changer. Et je vois le Canada, ça me parle. C'est une société dans laquelle je me reconnais, dans les valeurs que je me reconnais, dont je me vois vivre là. Ça serait quoi son... Est-ce que c'est comme ça, c'est juste un immigrant? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que ce genre d'immigration-là, c'est comme refusé?
Non, que... c'est dur à dire parce que on l'a dit et redit, l'immigration, c'est complexe. Et oui, autant au niveau du fédéral que du provincial, il y a plusieurs façons d'immigrer maintenant. Oui.
Parce qu'on dirait que... Peut-être que je suis biaisée avec moi, les expériences que, des gens que, autour de moi, mais on dirait que pour moi, cette situation-là, c'est comme impossible. Dans ce que je connais, c'est comme on dirait que... Puis aussi, dans le discours qu'on entend justement dans la société québécoise, c'est comme... je vais dire ça de façon, disons, grossière, mais c'est comme, t'es mieux d'avoir une bonne raison de venir ici, on dirait.
Oui, dans
le sens parce que... Mais si quelqu'un veut juste... venir vivre ici.
Ah ouais.
C'est pas si simple. En fait, c'est
non.
ça aussi que je tiens à ce qu'on dit,
si
c'est que des fois, on est comme, ben là, ça s'en vient ici, mais
c'est mais pas juste... N'importe qui peut venir visiter, mais
venir
l'enjeu
vivre
est venir rester
ici,
tout à fait.
Juste par un choix personnel.
Non, tout à fait, tout à fait.
Mais ça, est-ce qu'il y a une catégorie ou en fait, c'est même
non,
pas
Non, c'est lui
possible.
Qu'il faut qu'il trouve la catégorie de rentrée. Et là, okay, c'est une recherche. Et là, il y a des gens...
Donc, c'est pas une voie en soi, juste vouloir venir au Canada. Il faut qu'à partir de là, tu trouves...
Dans un programme.
Exact.
Faut... Bon. C'est une excellente image, puis on se le figure rarement comme ça, mais c'est ça. Il faut fitter dans un programme, se trouver une façon et avoir une bonne raison d'immigrer, comme tu l'as nommé, effectivement. Et c'est là que la demande d'asile devient malheureusement un peu le fourre-tout pour plein de gens. Peut-être pas plein, mais quand même, ça devient facile.
Je sais pas si tu veux aborder ce sujet-là, qui peut être un sujet chaud, puis qu'on peut avoir des opinions différentes. Puis ça, je sais, j'ai eu des débats avec plein de personnes. Mais pour moi... très personnellement, Cathy Alexandra Rétamal, je pense qu'il y a aussi cette espèce d'impasse-là qui, malheureusement, crée de l'immigration illégale aussi.
Tout à fait. Tout à fait.
Dans le sens où est-ce que, justement, si moi, j'habite dans un pays où est-ce que, ben chaque fois que je sors dans le soir, peu importe ma taille ou mon sexe, j'ai peur pour ma vie parce qu'à cause du crime, à cause de la pauvreté, à cause que j'ai peu importe, à cause que l'éducation est privatisée, à cause que j'ai pas de... Je ne suis qu'en état de survie et que je me dis qu'en tant qu'être humain, je mérite mieux et que j'ai les capacités. Si on me donnait l'environnement où est-ce que je pourrais m'améliorer, je pourrais avoir une vie meilleure et je décide de venir au Canada, mais ça, légalement, il n'y a pas un programme pour ça, si je comprends bien.
Ben, t'as nommé, il n'y a pas pour sa vie. Dans le cas que t'as nommé...
Oui, mais après...
Comme je te dis, la demande d'asile devient un peu pour un pool.
Donc,
pour
c'est plus
tout, parce
large
que... Les gens s'essayent. Puis il y a des cas où est-ce que... je le dis, je ne vais pas nommer de nom, mais il y a un cas qu'on m'a déjà raconté, un Mexicain qui arrive à l'aéroport, puis il me dit « Ah, c'est bien, on va rester, on va demander l'asile. » Alors par contre, il en revient à la décision aux instances juridiques de déterminer si oui ou non cette personne-là va avoir droit.
Oui.
Va pouvoir rester, va pouvoir se faire octroyer le statut de personne protégée. Mais tout le monde a le droit de la demander et de vivre au Canada comme demandeur d'asile. Tant aussi longtemps que tu as un avocat qui accepte de représenter ton cas, c'est sûr. Après, il y a des avocats probablement qui sniffent ça puis qui disent « Non, moi, je te représente pas parce que ça mènera nulle part. » Il y a de tout, il y a beaucoup de choses. Mais c'est ça, c'est un gros bassin où est-ce qu'il y a beaucoup de choses. Mais autrement, il existe quand même beaucoup de programmes qu'on se met à étudier vraiment. Il y a des gens que c'est leur expertise de 100% là, d'évaluer les catégories, les voies d'immigration au provincial, au fédéral. Il y en a beaucoup, et au Canada, plus que ce qu'on peut penser, ça s'appelle entrée express, travailleurs. Mon Dieu, je pense qu'il y en a une treizaine que je vois de vue, puis après, on les connaît pas tous, mais tu sais, il y a des possibilités.
Mais ce que je trouve tricky là-dedans, c'est que là, tu sais, on parle, tu sais, comme on a commencé vraiment dans des définitions, tu sais, légales, c'est quoi le statut, qu'est-ce qui définit ça, le processus pour résident permanent, etc. Mais après, c'est qu'on rentre peut-être en espèce de jugement de valeur qui est plus... comment qu'on dit, c'est quoi le mot que je veux?
C'est pas personnel. C'est pas abstrait. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, qui, encore là, dans les certaines discussions par rapport... bon, ça, parce que, bon, on blâme les immigrants pour tout, fait que je me souviens plus si c'est quand on les blâmait pour le logement, pour la langue française.
Ben, ou le logement, ou quelle, récemment, ou laquelle. C'est ça qu'on a malheureusement... On a des instances qui martèlent un mauvais message. Ça, oui, d'emblée, ça joue contre la cause aussi.
Mais c'est que je me souviens pas si c'était dans quel débat, mais dans un de ces débats... Ben, débat-là, j'entendais beaucoup dans les médias dire, mais est-ce que c'est des vrais demandeurs d'asile? Est-ce que c'est des vrais? Et là, moi, cette question-là, c'est comme, mais qu'est-ce qu'un vrai demandeur d'asile? Est-ce que justement, ce que je décris, est-ce qu'un vrai demandeur d'asile, c'est nécessairement quelqu'un qui vit la guerre? Ou qu'est-ce qui peut être... Puis c'est ça, c'est où est-ce que... Je trouve ça tellement tricky de voir bon, comment on dessine collectivement ou pas, en fait, qui prend ces décisions-là de juger est-ce que tu fuis quelque chose qui est assez grave pour qu'on te donne une opportunité de vivre une vie ici au Canada?
Mm-hmm. C'est une excellente question et c'est relégué au débat d'opinion. Il n'y a pas de vrai ou de faux parce que, ultimement, comme j'expliquais, chaque demandeur d'asile va avoir son audience individuelle.
Ouais.
Chaque personne va passer devant un juge et va être définie par sa situation individuelle, si oui ou non. Mm-hmm. Fait qu'on peut bien tomber dans l'opinion, on peut bien commencer à dire oui du vrai, du faux. Et je comprends l'argument de fond, les vrais versus des faux. Parce que tantôt, je nommais un exemple qui est clairement dans un faux immigrant. Parce que pourquoi? Ben, là-bas, il y a tout ce qu'il veut. Puis il est peut-être même considéré comme personne aisée au Mexique. Alors, pourquoi il vit ici?
Mm-hmm.
Chaque personne a le droit d'aller où il veut et tu l'as illustré. C'est tight. On peut pas, n'importe qui rentre pas qui veut. N'importe qui peut rentrer visiter et payer un loyer, mais au-delà de ça, changer ton statut, c'est pas donné à tout le monde.
Et parce que d'un autre côté, on entend ça aussi, on entend ça comme « Ah, ça vient ici, les gens immigrent, on a les portes ouvertes », mais sans se rendre compte que justement, ben, premièrement, il y a plusieurs façons de rentrer, puis cette façon qui disons, qui est peut-être plus floue ou plus libre, entre guillemets, les demandeurs d'asile, ben à ce moment-là, ben non, en fait, il y a un procès, c'est jugé, puis c'est pas nécessairement facile d'immigrer une histoire X. Là.
C'est on pas les pas, chiffres, mais là, il y a un pourcentage des gens acceptés versus refusés. Et il va toujours avoir les cas des gens qui sont acceptés et qui devraient peut-être pas l'être, mm-hmm. et les gens qui sont refusés et qui devraient l'être.
Mm-hmm.
Alors ça, même, on va jamais sortir de l'opinion pour cette démarche qui est excessivement personnelle en bout de ligne. Mais c'est ça, c'est un débat qui ben c'est pas un, c'est un faux débat en fait, mm-hmm. parce que c'est la réalité puis c'est ça qui se passe là.
Exact.
Alors il n'y a pas d'opinion publique à avoir versus ça, c'est des processus juridiques qui existent et qui sont en place.
Ouais.
Mais c'est des questions complexes, c'est des questions humaines parfaitement totalement complexes. Et c'est ça. Les gens sentent qu'ils doivent se positionner parce que après, c'est nos taxes qui payent les écoles, qui payent le service de santé. On le sait qu'ils sont saturés. Alors, il faut qu'on blâme quelqu'un. Puis on en a assez de blâmer les puits de place, les écoles sales à cause du manque de financement, du sous-financement, le puits d'infirmières, tout ça. Alors, il y a une surcharge quelque part qui est réelle.
Mm-hmm.
Alors, le loyer, même chose, c'est les logements crise du logement qui était récemment plus mentionnée. Alors, oui. Les immigrants, c'est le qu'on appelle ça le bouc émissaire.
Le bouc émissaire,
Le bouc émissaire facile. Et on a des instances qui alimentent peut-être ce message-là aussi faussement. Alors, on essaye, nous, de se placer dans tout ça et d'accompagner, d'éduquer. Par nos activités, on essaie d'éduquer la société d'accueil, de sensibiliser la société d'accueil. Ça, c'est un effort par nos diffusions, nos communications. C'est pas notre mission principale. Il y a des organismes pour qui c'est leur vraie mission, l'éducation populaire, l'éducation du public. Chez nous, ce n'est pas le cas, mais on essaye puis d'être solidaire avec les gens puis de les accompagner sans jugement, même les sans statut. Des fois, on les voit, les gens qui n'ont pas de statut, qui veulent rétablir leur statut, tout ça. Alors, des places comme ça qu'on essaye de... Pas sans prendre position, mais juste d'accompagner les gens comme ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont dans leurs efforts d'installation et d'intégration.
Puis, dans le fond, au Cana, vous recevez des gens de tout type de parcours puis de statut.
Tout à fait. Oh, absolument. Même les citoyens qui sont déjà là depuis 10 ans, hein, puis qui ont encore des besoins d'installation. La collègue qui suit en francisation, il voit des gens que ça fait des années qu'ils sont au Québec puis qui se décident de se franciser du jour au lendemain. Poup! comme ça. Alors, peu importe dans quel moment, l'étape, on n'a pas ce filtre-là. Malgré les modèles de financement communautaire qui sont peut-être des fois très précis, canés pour des gens qui sont limités entre un 0 à 5 ans, mm-hmm. Bien, ça, c'est pour le CANA, ces limites-là n'existent pas. Puis on aide comme on peut dans le temps qu'on a, selon notre expertise.
Parfait. Puis, on va devoir clore l'épisode. Déjà, ça passe assez vite. Oui. Mais en fait, pour conclure, j'aimerais te demander de nous partager une expérience, en fait, ou un moment qui t'a marqué dans ton travail, que ce soit avec une famille, un collègue, mais quelque chose de précieux que tu as vécu au CANA.
J'ai entendu la collègue plus tôt, alors j'ai préparé déjà une petite affaire dans ma tête. Puis effectivement, j'ai un cas, il y en a plein, sur plein de niveaux, mais il y en a un cas où est-ce que j'ai accompagné une dame. Madame est arrivée comme demandeuse d'asile, elle a été reconnue comme personne protégée. Madame a déposé sa demande de résidence permanente. Mais madame, elle avait une petite fille à l'étranger qui était restée au Congo derrière elle. Alors, l'occasion est là, quand elle dépose sa résidence permanente, d'inclure l'enfant. Alors, nous, ça fait partie des suivis qu'on fait habituellement. On inclut les formulaires adéquats, les suivis, les lettres d'immigration. La résidence permanente, c'est du pur aller-retour de lettres. Et bon, on accompagne les gens pour cette paperasse-là, pour écrire de la bonne façon, rédiger des lettres, les bonnes façons de communiquer immigration, les délais. Donc, cette dame-là, je la suivais, mon Dieu, une fois par trois mois, qu'elle venait me voir avec la nouvelle lettre. Qu'est-ce qu'on fait? Blablabla. Bla, 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 bla. Puis c'était beaucoup autour de sa fille. Quand les gens ont des démarches à faire avec un bureau d'immigration canadien à l'étranger, mais des fois, les délais sont plus longs, les courriels, c'est compliqué, les documents, les examens médicaux, tout ça. Alors, j'accompagnais madame. Ah, bien, c'est une dame qui se pointait sans rendez-vous, qui me laissait 10 messages, avec qui j'étais des fois rough un peu. Madame, elle envahissait mes courriels. Alors, c'était le genre de participant que tu dis, bah, j'ai hâte que ça finisse, je veux que ça y arrive, tout ça. Mais bon, au bout de peut-être un an, deux ans de l'avoir ci et là, on sentait que ça approchait. Puis, à un moment donné, je ne l'ai pas revu. Alors, dans ce temps-là, on ne court pas après les gens, mais quand on n'a pas de nouvelles, ben, on se dit bonne nouvelle. Et un jour, elle s'est pointée, sans rendez-vous, avec sa fille, avec un autre enfant. Puis, j'ai dit, allô, Mireille, on n'avait pas rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde la fille, bon, tout ça, tout ça. Puis là, j'allume. Elle me regarde, elle me pointe. Je pointe mon pouce vers l'enfant. Puis là, j'ai allumé que sa fille, elle avait finalement émigré, elle était arrivée. Wow. Donc, madame, elle avait obtenu sa résidence permanente et l'enfant est arrivé, puis était venu me la présenter au bureau. My God. Juste comme ça, sans rendez-vous, juste pour me présenter la fille. Son nom, je le connaissais par cœur, je connaissais les informations de la fille, tous ces trucs. Puis du jour au lendemain, c'est ça, elle est arrivée, puis elle est venue me la présenter, juste pour me la présenter. Fait que c'est un petit moment touchant comme quoi que ça a été une marque. Elle m'a pas dit grand-chose, mais ça m'a montré comment malgré c'est ça, les suivis, les courriels, c'était des irritants sur irritants. Et clairement que c'est elle. Je parle de mes pépins dans le suivi, mais c'est elle, la lourdeur du stress, une maman qui laisse son enfant, tout ça. Alors humainement, ça a été lourd à porter aussi. Et tout ça, finalement, c'est plus là maintenant citoyenne, puis... Elle m'a écrit pour autre chose récemment, mais j'ai encore sa petite fille en tête qui a immigré et elle me dit grâce à l'aide que j'ai apportée.
Wow. Alors,
voilà, c'est un petit exemple comme ça. Il y en a plein, des histoires comme ça, il y en a plein.
Mais j'en suis sûre. Mais merci pour tout ce que tu fais, puis merci pour ta présence, pour tes mots, ton savoir, pour notre petit cours en un que je trouve qui est très, très pertinent. Puis
très brouillon, très brouillon.
Oui, bien c'est sûr, mais déjà, c'est un bon intro, en fait.
Mais merci d'avoir posé la question, merci pour ton intérêt. Moi, on en parle, il faut en parler, il faut vraiment parler pour justement essayer de passer par-dessus les discours qu'on entend trop souvent, puis c'est comme ça, par des activités comme ça. Alors merci pour ton écoute.
Parfait, mais merci à toi, puis merci à vous, puis on se revoit dans un autre... dans un autre épisode, merci.
Bye bye.
À bientôt.
Ce balado a été produit avec la participation financière de la Direction régionale de santé publique. Le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants est un organisme à but non lucratif qui accompagne les personnes immigrantes en leur offrant gratuitement différents services individuels et activités collectives. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site Internet au canamtl.com.